Eh ben, je suis vraiment très, très contente d'être là ce matin devant vous tous et de pouvoir vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Ça fait plusieurs mois que le Seigneur avait mis ces choses-là sur mon cœur et je peux vous dire que c'est du vécu et c'est ce que j'aime quand j'ai l'occasion de prêcher, c'est de parler de ce que je vis, de ce que le Seigneur m'apprend à travers ben, les circonstances de la vie qui ne sont pas toujours faciles. Et ce matin, j'avais envie de parler de la souffrance et du fait de trouver Dieu dans nos souffrances. Et on passe tous par des souffrances, que ce soit des souffrances physiques, des souffrances morales, des deuils. On est tous sur notre vie, enfin, sur le chemin de notre vie, on passe tous par ces temps de souffrance. Et c'est un leurre de penser qu'on peut les éviter tôt ou tard. Ce n'est pas des paroles de malédiction, mais c'est juste un fait. Et ce matin, j'avais vraiment envie de vous partager ce que j'ai pu vivre ces dernières années. Ça s'est passé sur ces 5 dernières années, dans des temps de souffrance que j'ai pu vivre. Et ce que le Seigneur m'a montré, m'a révélé. Mais avant, je voulais commencer par... parce que ce que je vais partager, donc moi, ça a été des souffrances dans mon corps. Mais c'est aussi valable pour des souffrances qu'on vit voilà, dans ses émotions, à travers des événements de vie qui peuvent être traumatisants. Mais j'avais envie de parler d'abord de rappeler quelques vérités quand on prie pour la guérison. Vous savez qu'on est une église où on croit que Dieu fait des miracles aujourd'hui, que Dieu se manifeste à travers la guérison physique, la guérison de nos corps, mais aussi la guérison de nos âmes. Et que le Seigneur fait des miracles encore aujourd'hui, que c'est ce que Jésus a modelé et ce qu'il nous a envoyé faire sur la terre. Et on croit ça, on prie pour ça, on a déjà vu des miracles, on a déjà vu des guérisons, on va en voir encore et on veut que notre foi grandisse et soit stimulée par ça. Et néanmoins, parfois, on a besoin aussi de rappeler un petit peu des vérités, j'ai appelé ça des vérités. Pour avoir le bon cœur derrière, les bonnes motivations. Donc, si tu peux passer, voilà, quelques vérités. Donc, déjà rappeler, peut-être ça va vous paraître pour certains des banalités, peut-être d'autres, ça va être la première fois que vous allez entendre ces choses-là. Mais je vous encourage vraiment à simplement ouvrir vos cœurs et recevoir ce que le Seigneur veut vous dire ce matin. Première vérité, Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Dieu n'a pas créé le mal. Dieu est le créateur du bien. Tout en lui est bon et parfait. Et ça paraît peut-être tout simple de dire Dieu est bon, mais est-ce qu'on le croit vraiment? Est-ce que quand il nous arrive quelque chose de difficile, est-ce que ça va remettre en question la bonté de Dieu? Et souvent, même moi, même si on a grandi dans cette théologie, même si on chante dimanche après dimanche, Dieu est bon. Est-ce que quand il m'arrive une épreuve, ça remet en question la bonté de Dieu? Et moi, ça remet en question, ça m'a remis en question, est-ce que je crois vraiment que Dieu est bon? Et la souffrance et la maladie, ce sont des conséquences de la chute, ce sont des conséquences du péché. Ce n'est pas Dieu qui a créé ça, ce sont des simples conséquences, enfin des simples, des dramatiques conséquences de la chute. Deuxième vérité, alors j'en ai oublié une avant ça, on ne peut pas garantir, quand on prie pour la guérison de quelqu'un, on ne peut pas garantir à la personne qu'elle sera guérie. On ne peut pas lui dire tu vas être guérie. Là, tout de suite, tu vas être guérie. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut garantir qu'elle se sente aimée. Et notre motivation première, quand on prie pour la guérison de quelqu'un, ça doit être l'amour qui nous pousse. Tu ne peux pas dire à la personne, oui, tu vas être guéri. Oui, en quelque sorte, oui, un jour, on sera tous délivrés. Mais tu peux pas dire à la personne, oui, tu vas être guéri. Tout de suite, là, maintenant, je vais prier pour toi. Peut-être, oui, le Seigneur va faire ça. Et on prie pour ça. Et on veut croire ça. Et c'est ce que Dieu nous demande. Mais je peux pas dire à la personne, oui, tu vas être guéri tout de suite. Mais par contre, je peux garantir de faire tout mon possible pour l'aimer et faire en sorte qu'elle se sente aimée par moi. Ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. Ce n'est pas le résultat. Et vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de le partager quand on était en Angleterre, quand on a fait notre formation biblique en Angleterre. Tous les matins, on commençait par un temps de témoignage. Et lors de ce temps de témoignage, on témoignait de nos réussites, mais on témoignait aussi de nos échecs. Et à chaque fois, quel que soit le contenu du témoignage, dès qu'une personne avait fini, toute la salle se levait pour l'honorer et applaudir l'obéissance. Parce que Dieu, il honore cette obéissance. J'entends ta voix, Seigneur, je t'obéis. Et le résultat, ça ne m'appartient pas. Et c'est important de se rappeler de ça, de prier avec foi. Mais Dieu, il attend de nous l'obéissance, pas le résultat. Une autre vérité, demander à la personne pourquoi elle veut qu'on prie. Parce que parfois, nous, on va voir le besoin, mais la personne, elle n'est peut-être pas consciente de son besoin. Peut-être elle a été déçue, elle a besoin de passer par un chemin d'abord de restauration avant d'être capable de demander la guérison. Et comme Jésus qui a été voir Bartimée et qui lui a dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Pourquoi tu veux que je prie pour toi ? Peut-être tu as besoin, avant que je prie pour ta guérison, peut-être tu as besoin de recevoir la paix, peut-être tu as besoin de te réconcilier avec le Seigneur, peut-être tu as juste besoin que je sois là à côté de toi. Pourquoi tu veux que je prie ? Que veux-tu que je fasse pour toi ? Et en fait, être dans cette démarche, c'est respecter la personne là où elle en est et aller à sa rencontre, aller vers elle. Et ça, c'est une démarche un petit peu, pas simplement valable pour la guérison, mais que Jésus nous demande d'avoir, d'aller vers les autres. Et vous savez, parfois, nous, on encourage souvent d'inviter les gens à l'église, d'inviter les gens à l'église. Mais parfois, on ne se rend pas compte que rien que pour eux de venir à l'église, mais c'est un pas énorme. Nous, ça nous demande finalement peu comparé à ce que eux, ça leur demande. Et c'est ça, en fait, je pense que c'est important de changer un petit peu de façon de voir les choses et nous, d'aller à la personne, d'aller la rencontrer là où elle en est, dans son contexte, dans son quotidien. Et parfois, en fait, le simple fait d'aller vers elle, d'aller la rejoindre là où elle en est, elle, ça va lui permettre de faire une étape de plus, d'avancer, de cheminer, d'avancer dans son chemin avec Dieu, là où elle en est. Une autre vérité, ne pas laisser une prière non exaucée s'ériger en mur ou en offense dans ma relation avec Dieu. Et je pense qu'on a tous et toutes pu expérimenter des prières qu'on a priées de tout notre cœur, de toute notre foi. Et malgré ça, le Seigneur n'a pas répondu comme on l'attendait. Peut-être que la personne est décédée, peut-être que la personne n'a pas été guérie et vit toujours avec la maladie. Et ça, c'est dur. C'est difficile de vivre avec ça, de continuer. Mais les amis, ne laissons pas ça comme devenir un mur dans notre relation avec Dieu et puis dire, non Seigneur, tu n'as pas répondu, je ne vais plus prier pour les malades, je ne vais plus prier pour la guérison. Et puis même pour moi, je ne vais plus attendre parce que j'ai été trop déçue. Et c'est important de ne pas laisser ça. J'en parlerai un petit peu plus tard. D'examiner son cœur pour pas laisser de racines. Et puis être conscient qu'on vit dans le déjà et le pas encore. Le royaume de Dieu, il est venu jusqu'à nous, et puis il n'est pas encore complètement, établi, abouti, installé. Hein ? On est dans cette réalité où on vit déjà le royaume de Dieu, cette tension, mais où il n'est pas encore complètement installé. On est dans le pas encore. Et c'est important de ne pas... Il y a un petit peu deux extrêmes dans lesquels, qui s'opposent, c'est-à-dire, non, je ne crois plus en la guérison divine, je ne prie plus pour cela. Alors pourquoi on croit ça ? Peut-être on a grandi en pensant ça, dans différents milieux des enseignements qu'on a pu recevoir. Peut-être c'est une blessure, comme je disais avant. Peut-être c'est des fausses croyances qu'on a. Et l'autre extrême, c'est d'en faire un but absolu et d'ignorer la réalité, d'ignorer ce que vit vraiment la personne en disant « Mais non, il faut croire, tu vas être guéri, mais non, t'es guéri !» Puis la personne, elle est là « Mais attends, je manque de foi. Qu'est-ce qui se passe ?» C'est hyper culpabilisant après pour l'autre. Donc c'est important de toujours essayer de naviguer dans cette tension du royaume de Dieu qui est déjà là, mais qui n'est pas encore complètement là. Et puis accepter que c'est un mystère. Dieu, il est mystérieux. Il ne raisonne pas comme nous. Et puis c'est une promesse qu'il nous a fait. Et c'est un mandat que Jésus nous a fait avant de remonter au ciel. Voilà. Alors ça, c'était un petit peu pour rappeler des choses qui sont importantes. Et puis, on est tous appelés à grandir dans ce domaine-là. Et ce matin, je n'ai pas envie de casser votre foi. Mais c'est juste, OK, Seigneur, j'ai envie de grandir, j'ai envie d'apprendre. Je veux continuer de prier pour que ton royaume vienne. Mais il y a peut-être des choses encore que j'ai besoin de... Enfin, on a toujours des choses, on est tous en chemin dans notre foi. Et donc, qu'est-ce que je fais quand je ne suis pas guérie? Ou quand la personne pour laquelle je prie n'est pas guérie? Qu'est-ce que je fais? Alors là, je vais plus peut-être parler avec de moi. Je vais dire « je » parce que je l'ai vécu. Qu'est-ce que je fais avec ce que je vis dans mon corps et puis dans mes émotions, dans mon âme? Parce que quand on vit une souffrance physique, forcément, ça impacte aussi comment je me sens. Qu'est-ce que je fais de la douleur qui est là, à laquelle parfois je ne peux pas échapper? Qu'est-ce que je fais de la souffrance? Qu'est-ce que je fais de la peur de l'avenir? Est-ce que ça va rester comme ça tout le temps? Il y en a qui peuvent passer par des temps tellement de douleurs, tellement fortes que l'avenir est très difficile à envisager. Puis de la peur de la mort aussi. Et ce que je vais vous partager, c'est donc à travers deux expériences ces cinq dernières années, enfin deux expériences qui se sont reproduites. Donc je vais les citer très brièvement parce que ce n'est pas le focus, mais j'ai accouché quatre fois en tout, mais deux fois sans péridurale. Et c'était, pour celles qui l'ont vécu, l'accouchement en général, c'est un rite dans la vie d'une femme, n'est-ce pas, mesdames? Et puis, j'ai été éprouvée aussi par d'autres problèmes physiques et j'ai eu deux opérations. Donc, c'est rigolo parce que j'ai vécu ces expériences, un accouchement, une opération, un deuxième accouchement, puis une deuxième opération. Et je ne les ai pas du tout vécues de la même façon. Et je vais un peu me servir de ça pour vous partager la suite. Et je dirais que la première fois, dans les deux cas, donc dans le premier accouchement et la première opération, j'y suis allée, j'ai prié, j'ai dit « Seigneur, je ne veux pas avoir mal, Seigneur, ça va bien se passer », etc. Et puis, je me suis retrouvée, et mon mari était présent les deux fois, à subir en fait complètement ce qui m'arrivait sur le moment où j'étais complètement anéantie par la douleur. C'était très très violent. Il y a eu du découragement, il y a eu du désespoir, il y a eu. Je suis passée un petit peu par des phases émotionnelles variées en plus de devoir gérer la douleur. Et puis ça m'a amenée les deux fois d'après, quand j'ai à nouveau accouché pour la deuxième fois sans anesthésie, puis la deuxième opération, à me préparer déjà différemment dans la foi, et puis à vivre les choses, à expérimenter les choses différemment. C'était pas, je vous cache pas, c'était pas, je vais pas vous dire que c'était facile, je vais pas vous dire que c'était une partie de plaisir que j'y suis allée en me disant « Ouais, allez, Seigneur, vas-y !» C'était dur, mais j'ai retiré en fait de ces expériences-là des perles, et c'est ce que je veux vous partager ce matin. Et pour commencer, j'avais envie de vous lire Romains 5, versets 3 à 5, parce que ce que je veux vous partager, c'est pour vous donner de l'espérance. Et pas une espérance vaine, mais l'espérance qui vient du ciel. Bien plus, nous glorifions même des afflictions. Nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà. L'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire donne l'espérance. Waouh! Donc, ça veut dire que même dans nos afflictions, même dans nos souffrances, à la fin, il y a l'espérance qui est là, qui se trouve. C'est c'est pas quelque chose de vide, de dépourvu de sens. Hein. Je sais plus, l'autre jour, je suis tombée devant une affiche de bonne année, de, je sais plus, c'était de la région, du conseil général, et puis je me disais, mais ils souhaitent quelque chose de complètement vide, en fait. Parce que l'espérance en quoi ? En rien. On vous souhaite une bonne année. Ouais, merci, mais il y a quoi derrière ça ? Non, là, c'est pas ça. Ça s'enracine dans l'amour le plus profond et le plus vrai, le plus pur qui nous a été donné par Jésus. Alors, j'ai cherché un petit peu la différence entre la douleur et la souffrance. Et je vais vous lire cette citation. La douleur, c'est l'ensemble des phénomènes physiques ou matériels à l'origine de nos maux. C'est le réel qui nous fait mal. Et la souffrance, c'est l'impact sur nous de la douleur. C'est la place qu'elle prend dans notre tête et dans notre vie. C'est un psychiatre qui a défini ça comme ça. Et j'ai trouvé que c'était très juste. Et en fait, la douleur, je vais faire un court aparté un petit peu technique. La douleur, elle a une fonction dans notre corps. Je vais parler de la douleur physique. Donc son but, c'est d'alerter l'organisme pour qu'il réagisse face à un stimulus mécanique, chimique ou thermique. C'est un petit peu compliqué, mais c'est simplement la douleur. Son but, c'est de nous dire, oh, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps, il faut que tu réagisses, il faut que tu te protèges, il faut que tu fasses quelque chose. Et dans notre société, la douleur, c'est perçu comme quelque chose d'assez négatif. Personne n'a envie de souffrir, personne n'a envie d'avoir mal, et donc on va chercher à l'éviter, à l'éradiquer. Et la prise en charge de la douleur dans le corps médical, elle est très récente. Si on regarde, c'est très récent, l'anesthésie sur l'histoire de la médecine, c'est apparu assez récemment. Et c'est une bonne chose. Voilà, que ça soit pris en compte, que ça soit pris en charge, que on a peut-être tous en tête des images, je sais pas, d'autres époques où les gens allaient chez le dentiste, ils se faisaient arracher les dents comme ça, sans aucune anesthésie. Enfin, voilà, ce côté-là n'était pas du tout considéré. Donc c'est une bonne chose. Mais en fait, on a un petit peu basculé dans un extrême inverse, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour la prise en charge de la douleur, le patient il va s'en remettre complètement, exclusivement aux soignants. Ou aux voilà, donne-moi un médicament, donne-moi quelque chose pour plus souffrir, pour plus avoir mal, pour être soulagé. Et du coup, quand la douleur est quand même là, face à la douleur, et quand le traitement ne suffit pas, parce qu'il y a beaucoup de fois où ça ne suffit pas, eh ben on se retrouve complètement démuni. Et on subit ce qui nous arrive. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé lors de mes premières expériences, comme je vous ai partagé tout à l'heure. Et d'autant plus dans notre culture, où on veut tout maîtriser, risque zéro, on veut tout contrôler. Mais aussi, on va se reposer sur nos sécurités. J'ai entendu un témoignage assez hallucinant la semaine dernière, où une nouvelle mode, c'était de se faire limer les dents pour se faire mettre des facettes dans un autre pays, parce que ça coûtait moins cher. Et puis, le gars, il disait, et donc il y avait un dentiste qui alertait, qui disait, mais ne faites pas ça, c'est vraiment de la folie, surtout, vous avez des dents saines, vous êtes jeune, rien ne vaut vos vraies dents. Et puis, le gars, il disait, mais moi, ça ne me fait pas peur, parce que de toute façon, vu les progrès de la médecine, je suis sûre qu'il y aura des solutions quand ça ne marchera plus, quoi, quand mes facettes tomberont et qu'il me restera juste des bouts de dents, c'est vraiment pas très joli à voir. Et en fait, on se rend pas compte, mais beaucoup, souvent, on peut raisonner comme ça. On s'appuie sur nos sécurités, sur nos conforts, sur nos biens matériels, sur les prouesses médicales. Et en fait, la douleur, elle devient vite insupportable. On n'arrive pas à la gérer, mais elle devient insupportable, surtout quand elle n'a pas de but. Là, c'était un petit peu la différence entre mes deux expériences. Quand on accouche, il y a de la douleur, mais il y a un but, il y a une délivrance. Donc, quelque part, c'est un peu plus acceptable, mais quand on souffre gratuitement, entre guillemets, que de toute façon, il n'y aura pas de soulagement, que c'est juste, t'as mal, c'est, ça peut rendre fou. Et ceux qui ont expérimenté des douleurs comme ça, hyper intenses, ils peuvent comprendre, dire « mais j'ai cru que j'allais devenir fou ». Parce que c'est insupportable. Alors, c'est bien que je vous dise tout ça, mais dites « ok, merci ». Ça ne nous amène pas beaucoup d'espoir, là. Elle est où, l'espérance ? Et alors, justement, comment faire face à cette douleur quand elle arrive, à cette souffrance ? Alors, j'aime bien me référer au psaume 23, où David dit « même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». Et qu'est-ce que ça nous dit, ce verset ? La souffrance, elle se traverse. La douleur, elle peut être momentanée, elle peut être chronique aussi. Son intensité peut varier, mais il faut la traverser. Et alors, on a une question. Et dans ce psaume, David y répond, avec qui je la traverse ? Est-ce que je la traverse seule ? Est-ce que je la traverse avec mes peurs, avec mon désespoir ? Ou est-ce que je la traverse avec Dieu ? Parce que Dieu est là. Et Dieu est présent au cœur de ma souffrance et il se laisse trouver. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai pu expérimenter la deuxième fois, notamment, que je me suis fait opérer cet été, où j'étais dans mon lit avec des douleurs comme je n'avais jamais vécu. J'appelais le service. Il faut que vous me prescriviez quelque chose de plus fort. J'en peux plus, c'est horrible. Tous les jours, ça revenait. Je me disais, mais comment demain je vais faire face à ça ? Est-ce que ça va être encore plus fort que la veille ? Mais Dieu est là et il se laisse trouver. Et en fait, j'ai réalisé dans ces moments-là, en tout cas moi, ma révélation, c'était justement la présence de Dieu. Que Dieu n'était pas en dehors. Que Dieu, il n'était pas extérieur, mais il se trouvait vraiment là au cœur et qu'il se laissait trouver. Et vous savez, Jésus, il a dû faire face à la souffrance et à la douleur. Et même si, dans un sens, il a dû l'affronter seul en tant qu'homme, c'est un peu comme souvent avant mes accouchements, je me disais, ben, c'est chouette, il y a mon mari qui est là près de moi qui va me soutenir, mais de toute façon, eh ben, il n'y a pas le choix, quoi. Je vais devoir y aller quoi qu'il arrive. Mais c'est un petit peu, c'est peut-être, enfin voilà, les femmes se reconnaîtront dans des moments de peur où tu te dis, mais non, j'ai pas envie. Et de toute façon, ben, si, j'ai pas le choix, il faut y aller. Et Jésus, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que dans ces moments où il a dû traverser la souffrance, il était constamment en connexion avec Dieu. Et j'ai relu le passage dans le jardin de Gethsémané, sur le mont des Oliviers, où il s'entoure de ses disciples. Il leur demande de venir, de prier avec eux, mais ils s'endorment. Mais dans ces temps-là, à deux reprises au moins, il va s'éloigner et aller parler à son père. Et il lui dit, si tu peux, éloigne cette coupe de moi, toutefois que ta volonté soit faite. Donc il prend ses temps à part, il demande à ses frères de l'entourer, de l'accompagner, j'ai besoin, ça aussi c'est important, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous priez pour moi, j'ai besoin que vous soyez là. Et puis il s'éloigne et il va parler à son père. Il est en communion avec son père tout au long de ces moments d'agonie. Et dans l'évangile de Luc au chapitre 22, il est même mentionné qu'un ange lui est apparu et l'a fortifié à ce moment. J'avais jamais fait attention à ce détail, c'est que dans le livre de Luc. Et, excusez-moi, un ange lui est apparu et l'a fortifié. Et sur la croix, pareil, alors qu'il était en train d'agoniser, il s'adresse à son père. Et ça m'a frappée, j'ai un petit peu médité, parce que les dernières paroles, alors dans trois évangiles sur quatre, c'est le premier verset du psaume 22, qui est un psaume dit messianique, qui est très beau, où il dit « mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors ça m'a frappée, je dis « Seigneur, mais pourquoi tu t'es senti abandonné par ton père alors qu'il est là, Dieu ?» Alors j'ai pas de réponse toute faite, mais je vous inviterai à relire le psaume 22. Et c'est beau parce que les psaumes, il y a toujours une évolution. Et ça commence par « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» puis ça finit par « Dieu qui est là ». Et la terre, comme c'est écrit, est le seul endroit, ça c'est une amie qui m'a dit ça un jour, la terre c'est le seul endroit où on peut louer Dieu, le seul moment aussi où on peut louer Dieu au cœur de nos souffrances. Au ciel, on n'aura plus de maladie, plus de souffrance. Et sur la terre, eh ben, c'est le seul endroit, c'est le seul temps dans notre vie où on peut louer Dieu au cœur de nos souffrances. Et c'est là où notre louange, elle prend vraiment encore plus une dimension de sacrifice. Et là, je ne suis pas du tout en train d'aduler la souffrance et de la rechercher pour nous rendre plus sains, plus proches de Dieu. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. La maladie, elle n'a pas de vertu en elle-même. Mais il n'y a que Dieu qui est capable d'utiliser le mal qu'on vit, le mal qui nous arrive pour le transformer en bien. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Comme dans Romains 8, verset 28, il fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Tout. Il n'a pas écrit juste les bonnes choses qui nous arrivent. Non, tout. Même les pires choses qui peuvent nous arriver. Il fait tout concourir à notre bien. Ça aussi, c'est un mystère. Et Dieu se révèle aussi dans nos souffrances. Et c'est un petit peu comme l'image de l'or, vous savez, qui est épuré par le feu. L'épreuve du, on peut parler souvent de l'épreuve du feu. C'est pas quelque chose de une notion très agréable. Et pourtant, l'or, il ressort plus pur. Il ressort de meilleure qualité une fois qu'il est passé par le feu. 1 Pierre 1, versets 7 à 9. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et ça, c'est une réalité. Alors concrètement, comment on traverse cette souffrance avec Dieu? Premièrement, être dirigé par l'Esprit. Galates 5, verset 16, je dis donc « marcher selon l'Esprit ». Et je fais référence, vous savez, à ce verset dans Thessaloniciens 5 qui dit qu'on est esprit, âme et corps. Et la souffrance, elle a lieu dans notre corps, elle a lieu dans notre âme, ou nos émotions, comme je disais. Et puis, ce n'est pas forcément une souffrance physique à chaque fois, mais en tout cas, nos émotions peuvent être en souffrance. Mais notre esprit, lui, est en communion avec l'Esprit de Dieu. Romains 8, verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et ça, c'est vraiment quelque chose, en fait, c'est un positionnement de réaliser que notre esprit, il est en communion avec l'Esprit de Dieu et il peut être régénéré, même dans des temps de souffrance, même dans des temps où notre corps souffre, où notre âme souffre, notre esprit peut être régénéré. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est important d'être dirigé par l'Esprit. Alors, concrètement, ça peut paraître un petit peu abstrait, mais c'est important de dire, bah, que ce soit notre esprit qui prennent le dessus sur notre âme et sur notre corps. Et en fait, en faisant ça, le focus, il va changer. C'est-à-dire qu'au lieu d'être focalisé sur notre douleur, notre souffrance, on se focalise sur la présence de Dieu qui est là. Et c'est un positionnement dans la foi. C'est pas magique. C'est un positionnement dans la foi. Seigneur, je sais que tu es là. Même dans ma souffrance extrême, je sais que tu es présent. Et je choisis de te chercher, je choisis d'être en communion avec toi. Et vous savez, ce n'est pas facile. Mais Dieu est là. Deuxièmement, s'imprégner de la parole. Alors, lors de quand je me suis préparée à accoucher pour la deuxième fois sans péridurale, on avait, donc forte de ma première expérience, qui était quand même extraordinaire, j'avais envie de me préparer différemment. Et Mathieu, on avait beaucoup prié ensemble, on avait lu des livres, on avait lu la Bible, bien sûr. Et Matt, il avait tapissé notre chambre de versets pour qu'on puisse s'imprégner. Et je crois que c'était au moins un mois avant. Ils sont restés plusieurs mois après dans notre chambre. Il y avait la parole de Dieu, des versets clés comme ça qui nous parlaient. Par exemple, je me souviens le dernier mois, le soir parfois, tout d'un coup, je pouvais avoir comme des peurs, des angoisses, de me dire, je sentais la peur qui venait. Et puis j'avais le verset de, je ne sais plus quel psaume, aussitôt couché, c'est le psaume 22 d'ailleurs. Aussitôt couché, non, c'est pas le 22. Je m'endors en sécurité. Et puis il y avait plein d'autres versets comme ça. Et j'avais besoin de m'imprégner de la parole de Dieu. Et puis il y avait, lors de ma deuxième opération aussi, après j'avais une amie qui m'avait envoyé des versets à écouter. Parce que il y avait des moments où j'avais plus la force de lire, j'avais plus la force de parler, mais juste je mettais dans les oreilles des versets sur la guérison, sur le Seigneur, comment il était, des vérités de la parole. C'était juste des versets qui étaient lus. Et c'est important en fait de s'imprégner vraiment de la parole. Et vous savez, la parole, elle est puissante. Hein, la parole de Dieu est une arme puissante, vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et ça, c'est une réalité aussi qu'on a besoin de s'approprier. Et dans Josué 1, verset 8, il y a ce verset qui dit « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Et en fait, parfois, et même dans plein de situations dans notre vie, on peut se retrouver dans des moments où on n'a plus les mots. On n'arrive plus à prier. On ne sait plus quoi prier. On ne sait plus quoi demander. Proclame la parole. Déclare la parole de Dieu. Tu es sûr de ne pas te tromper. Tu es sûr de ne pas te dire des bêtises. Tu déclares la vérité de Dieu. Et puis, dans ce verset, ça dit « médite ». Alors, la méditation, on ne parle pas de méditation orientale. Hein, qui consiste à faire le vide, à vider. Non, non, nous, on se remplit de la parole de Dieu. Et c'est intéressant, je l'avais déjà dit, je crois, dans un message, le terme méditer hébreu, c'est le même mot qui est utilisé dans un autre verset, dans Ésaïe 31, qui dit « Le lion défend sa proie en rugissant ». Et bien, en fait, le mot qui est utilisé dans le verset de Josué, qui dit « Médite-les », c'est le même mot qui dit « défend le lion qui défend sa proie en rugissant. » C'est fort, hein? Et en fait, méditer, c'est être proactif et remplir mes pensées avec ce que Dieu pense, avec ce que Dieu dit. Et alors, sa parole, elle agit. Sa parole, elle agit. Ça active la puissance de sa parole. Et la troisième chose, c'est prier en langue. Et ça, c'est ce que j'ai pu expérimenter cet été. Où dans des moments de douleur tellement intenses, je pouvais soit gémir, soit prier en langue. Et c'était vraiment quelque chose de très fort. Et ça a été comme, c'est pas venu tout de suite, c'est peut-être venu au bout du deuxième, du troisième jour de douleur, où je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire là? Je voyais le moment arriver où ça y est, ça allait être mon combat. Et en fait, je sais plus si c'est quelqu'un qui me l'a suggéré, mais je me suis mis à prier en langue, dans les moments de douleur, où la douleur était le plus intense, où elle était insupportable, malgré les traitements, malgré les antidouleurs, elle était quand même là. Et en fait, je me suis mis à prier en langue, pour traverser cette souffrance. Et ça a été vraiment une arme incroyable, parce que à ce moment-là, comme je disais tout à l'heure, le focus, il n'était plus sur ma douleur. Il était sur chercher Dieu. Seigneur, tu es là, je sais que tu es là. Je sais que tu te manifestes à moi. Je sais que mon esprit est en communion avec le tien. Et je choisis de me positionner dans ce sens-là. 1 Corinthiens 14, verset 14. Car si je prie en langues inconnues, mon esprit est en prière. mon esprit est en prière. Et en fait, c'était vraiment ça que j'ai pu expérimenter. Et le parler en langue, c'est vraiment une arme que le Seigneur nous a donnée pour combattre. C'est l'esprit lui-même qui intercède pour nous. On ne comprend pas tout. Mais il se passe des choses extraordinaires, incroyables. Alors, comment on peut accompagner quelqu'un qui souffre ? On parle de compassion, ça veut dire la compassion, souffrir avec. Les pourquoi, hein, parce qu'on passe, quand on passe par la souffrance, il y a forcément les pourquoi qui arrivent. Les pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi ça recommence ? Pourquoi ça revient ? Et en fait, c'est juste un moyen d'exprimer la souffrance. Et j'ai envie de dire, en fait, c'est vain de chercher des réponses. Mais c'est nécessaire de le dire, d'être vrai avec Dieu. Job l'a fait quand on relit le livre de Job. Et d'ailleurs, c'est toute la question. Je vous encourage à, si vous n'avez pas le temps de relire, enfin, vous pouvez regarder les vidéos de Bible Project sur le livre de Job qui résume en vidéo le livre de Job. C'est très intéressant et justement, ça dit, ils essaient de répondre à cette question, mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu as fait, Job ? Pourquoi il t'arrive tout ça ? Et c'est important d'être vrai avec Dieu. C'est important. David, il était très, très authentique dans sa relation avec Dieu. Il lui disait comment il se sentait. Il lui disait quand il se sentait abandonné. Jésus aussi l'a dit. Et parfois, ça va d'exprimer ces choses-là, ça a une fonction de nous libérer. On a besoin de le dire. Juste de le poser, d'être vrai. Là, j'ai besoin de pas de mettre de filtre, juste de dire qu'est-ce que j'ai dans le cœur. Donc, laisser ses pourquoi s'exprimer. Deuxièmement, simplement écouter. Être présent. Parfois, ça va être tenir la main. Parfois, ça va être intercéder à voix haute. Parfois, intercéder en silence. Manifester de l'affection. Parfois, ça va être rien dire. Juste être là, à côté de la personne. Et accueillir son ressenti. Aller à la rencontre, là où elle est. Et puis encourager, exhorter, mettre sa foi en action. Proposer la prière, peut-être la personne va dire non. On peut imposer les mains pour la guérison. Mais tout ça avec l'approche par excellence, comme nous dit Paul. Hein, c'est l'amour, 1 Corinthiens 13. Voilà, et ces trois choses-là, c'est vraiment... En fait, c'est très simple, mais comme on dit, l'évangile, il est simple, mais il est puissant. Et c'est des choses que j'ai pu vivre, comme je vous dis, partager ces dernières années, et que je vous partage, mais c'est des choses très simples, mais très puissantes. Et ce matin, j'avais envie qu'on puisse prier. Déjà, je pense que... Voilà, moi, les expériences que j'ai eues peuvent paraître moindres par rapport à ce que certains peuvent vivre ou ont pu vivre, et j'en suis consciente. Mais quelles que soient les souffrances par lesquelles on passe, par lesquelles on est passé, par lesquelles nos proches passent, en fait, le Seigneur veut se révéler et veut nous donner, veut qu'on s'approprie ces révélations qu'il veut nous donner. Et j'avais envie que ce matin qu'on puisse... J'avais envie de prier pour ceux qui souffrent, que ce soit une souffrance physique, que ce soit une souffrance morale, que ce soit une souffrance suite à un événement, quelque chose qui s'est passé. Et puis peut-être aussi pour ceux qui ont été déçus, qui ont prié, vous avez prié pour des personnes, vous avez prié avec foi, vous avez espéré, vous êtes attendu au Seigneur, puis le Seigneur n'a pas répondu comme vous l'espériez. Pour pas laisser justement ce mur, cette offense, se mettre dans votre relation avec Dieu. Et puis aussi pour ceux qui ont l'impression de manquer de foi pour la guérison, qui prient pas, qui prient plus pour quelque raison que ce soit. Et je voulais vraiment vous encourager simplement à vous lever. Si ce que j'ai dit là, les trois catégories, ceux qui souffrent, si vous avez été déçu ou offensé, ou si vous avez l'impression de manquer de foi, vous n'arrivez plus à prier pour la guérison. Simplement vous lever pour recevoir ce que le Seigneur vous donne ce matin. C'est pas moi, c'est pas ma prière, mais je crois que le Seigneur, il a un rendez-vous avec chacun d'entre nous, quel que soit ce que vous traversez. Comme j'ai dit, c'est pas forcé que ce soit une souffrance physique, ça peut être la maladie, ça peut être aussi un événement, quelque chose qui s'est passé, qui a été difficile, quelque chose qui est comme un obstacle, du coup, qui est resté. Et vous sentez cette distance dans votre relation avec Dieu. Mais Seigneur, ce matin, il veut venir à votre rencontre. Il est là sur le chemin. Il vient vous trouver là où vous êtes. Et il vient sur votre chemin, il vient sur votre route. Et il veut vous libérer.